Bonjour William Acker, merci de répondre à nos questions pour ce 20e salon du livre d'expression populaire et de critique sociale organisé par Colère du Présent. Tu es l'auteur de « Où sont les gens du voyage ? Inventaire critique des aires d'accueil » publié aux éditions du Commun. Tu es voyageur militant et juriste. Alors l'ouvrage part du constat de l'absence de chiffres, de données sur l'isolement des aires d'accueil et sur les nuisances environnementales qu'elles subissent. L'objectif est donc de montrer le caractère systémique de ces nuisances et l'injustice que vivent les gens du voyage. Il montre aussi que l'assignation spatiale des gens du voyage relève d'un processus d'encampement qui prend racine dans un anti-tsiganisme profond présent dans la société française et dans les politiques publiques. Alors on va essayer de déployer ces notions pendant cette interview, mais d'abord j'aimerais commencer par l'accident de Lubrizol. Le 26 septembre 2019, Lubrizol, un site Seveso situé à Petit-Quevilly, près de Rouen, qui a explosé. Au pied du site, une aire d'accueil avec 25 familles livrées à leur propre sort. Et en fait, j'aimerais savoir quel rôle a joué cet événement dans l'écriture du livre.
Alors, l'événement a été un peu de Lubrizol, ça a été le déclic pour commencer un inventaire des lieux d'accueil en France, tout simplement parce que Lubrizol et l'aire d'accueil de Petit-Quevilly, qui était située au pied de l'usine, représentait un peu le symptôme de ce qu'on pouvait trouver ailleurs en France. Et d'un seul coup, il y avait une forme de visibilité sur cette situation, d'éclairage qui était mis par cet accident industriel qui a fait les gros titres dans les médias. Et dans une forme d'action collective avec les habitants, des collectifs de chercheurs, plusieurs autres acteurs, nous avons décidé de mener une forme de campagne de médiatisation et de sensibilisation sur cette question des aires d'accueil situées à proximité de sites pollués ou dangereux. Et en fait, on s'est rapidement confronté au mur des institutions qui nous ont rétorqué qu'on n'avait pas de chiffres, pas de preuves pour prouver ce qu'on connaissait ou soit ce qu'on vivait, hein, puisque c'est quand même un phénomène qui est très ancien et dénoncé depuis très longtemps par les voyageurs. Face à ce refus d'entendre, m'est venue l'idée de faire ce recensement des aires d'accueil, donc département par département, aussi pour produire de la donnée, donc comprendre combien d'entre elles sont reléguées des espaces dédiés à la vie dans les villes, et combien d'entre elles sont à proximité de sites pollués, d'installations qui engendrent des nuisances environnementales ou de sites dangereux. Voilà. Donc c'est en cela que l'incendie du Lubrizol a été un déclencheur. Mais c'était finalement qu'une pointe de l'iceberg et il fallait creuser un petit peu tout ça pour faire sortir les chiffres, avoir de la donnée aussi à qui viennent appuyer un discours. Des combats, des luttes ou plus simplement qui viennent appuyer des rapports, hein, puisque aujourd'hui je pense que ces données seront reprises par un certain nombre d'institutions, de journalistes, de voyageurs et c'est très bien.
Donc il s'agit d'un inventaire. On s'attend plutôt au départ à lire un livre plutôt axé sur la géographie, une géographie urbaine ou une géographie sociale. Or, une partie du livre importante est consacrée à l'histoire. Comment ça s'explique ?
C'est non seulement une partie importante du livre est consacrée à l'histoire, mais l'histoire avec un grand H et aussi l'histoire avec un petit H, donc à de la micro-histoire, puisque je pars aussi d'une partie de mon histoire personnelle et de l'histoire des gens que j'ai rencontrés, qui vivent sur les airs ou qui les côtoient régulièrement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne peut pas comprendre les lieux sans comprendre l'histoire. On ne peut pas comprendre le lieu aire d'accueil et pourquoi il est rationalisé ainsi, pourquoi il existe de cette manière-là, pourquoi il est fabriqué en série, pourquoi il est installé au lieu où on les installe, sans comprendre l'histoire des voyageurs de manière beaucoup plus globale dans l'espace français ces deux derniers siècles. Parce qu'en réalité, le système des lieux d'accueil est adossé à un système global et réfléchi sur l'accueil des gens du voyage, ce qu'on appelle l'accueil des gens du voyage en tout cas, et qui lui s'inscrit dans un processus historique très long, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale avec l'assignation et l'internement des nomades en camps d'internement et de concentration, jusqu'à l'avènement Récente finalement de ce qu'on appelle aire d'accueil et de ces espaces standardisés que sont les aires d'accueil.
Il y a aussi une chose intéressante à relever, c'est qu'il y a presque une histoire des papiers d'identité. Les personnes voyageuses ou dites nomades sont les premières à avoir eu des papiers d'identité.
Oui, alors je dis nomade parce que quand je parle de nomade, je parle d'une catégorie, d'un statut juridique qui a existé entre 1912 et 1969. Donc c'est vraiment l'utilisation que j'en fais, c'est vraiment sur le statut. Et effectivement, les personnes dites nomades ont été les premières à jouir, en tout cas à jouir, ou en tout cas à subir plutôt un format de papier d'identité qui s'appelle le carnet anthropométrique, et qui en réalité était bien plus qu'une simple carte d'identité, puisqu'on y a doté toute la théorie de l'anthropologie raciale de l'époque, avec des mesures des membres, des caractérisations sur les origines ethniques notamment, et surtout cette catégorie de nomades cohabitait avec deux autres catégories qui concernaient les personnes en situation d'itinérance, c'est-à-dire les marchands ambulants et les forains. Et ces deux autres catégories avaient finalement une caractérisation dans le droit très claire. On savait parfaitement qui était marchand ambulant et qui était forain. En revanche, la catégorie nomade, elle restait extrêmement floue. Elle était dès lors aussi adossée à une conception du délit très forte, c'est-à-dire qu'on présumait que les nomades étaient des personnes qui allaient commettre ou qui commettaient des délits. Et ce statut de nomade, si dans son écriture juridique, à la lecture de la loi, il ne vise pas explicitement les tziganes, en tout cas ce qu'on considère comme tziganes, dans les débats politiques et dans la pratique administrative ensuite mise en œuvre, il était spécialement conçu pour viser les bohémiens romanichels tziganes, en tout cas ceux qu'on qualifiait comme ça au XIXe siècle. Donc effectivement, ce sont les premières personnes en France à avoir eu une forme de carte d'identité, puisque la généralisation du papier d'identité arrive au milieu des années 40, au début des années 40. En tout cas, ce papier d'identité servait surtout d'outil de contrôle des déplacements, mais aussi de contrôle des populations, adossé bien sûr avec des listes et donc un fichage des nomades dans les postes de police. Et donc c'est à partir de ce fichage des nomades qu'on a pu interner les nomades pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, le rapport au papier d'identité est comme un outil de contrôle, est un rapport qu'il est nécessaire de comprendre aussi pour comprendre ce qui est qualifié d'encampement quand on parle d'aire d'accueil.
Les atteintes environnementales diffèrent d'une aire à l'autre, selon qu'on est situé au pied d'une usine Seveso, d'une carrière, d'une déchetterie et d'une société d'équarrissage, d'une autoroute, sous les voies de TGV ou derrière une usine de béton. Mais ces atteintes ont pourtant un point commun. Une charge symbolique forte. Lorsque, depuis l'enfance, les seuls lieux de vie croisés sont les déchetteries et les arrières d'usines, ça laisse une arrière-pensée, une petite musique. Souvent, on ne l'entend pas ou plus, mais elle est là. Les poubelles, c'est pour moi. C'est ici, dans ces lieux que la société choisit de m'installer, souhaite me voir et surtout que je reste. On ne s'interroge pas sur la charge symbolique et encore moins sur les effets psychologiques qui accompagnent ces expériences. Ceux qui conçoivent les schémas d'accueil, ceux qui travaillent dans les administrations, dans les ministères, ceux qui au niveau des métropoles ou de l'État sont en charge des gens du voyage, tous ceux-là n'auront jamais à tenter l'expérience de l'aire d'accueil et comprendre les effets de la relégation sur les personnes. Aussi, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour au moins entendre que vivre au milieu de nuisances n'est pas viable. La poussière, le bruit ou l'odeur insupportable ne se dissimulent pas. Même pour l'élu ou le responsable public, ils se rendent parfois sur les aires, souvent pour l'inauguration de l'équipement. Évidemment, il paraît difficile d'appréhender les conséquences concrètes sur la santé. Il faut entendre les toux régulières, voir les plaques d'eczéma ou ressentir les migraines. Il faut faire l'expérience de l'impossibilité de se concentrer, ou celle du bruit permanent. Trouver un pont qui passe au-dessus d'une autoroute et fermer les yeux. Vous aurez l'exacte ambiance sonore de l'aire d'accueil de Saint-Mené.
l'injustice environnementale qui est décrite tout au long de l'ouvrage, qui est systémique. Quel ancrage est là dans cette histoire-là, en fait, dans ce continuum historique ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de récent ou déjà avant-guerre, c'était quelque chose qui se constatait aussi ?
L'injustice environnementale, c'est une notion qui est relativement récente, puisque c'est une notion qui a émergé dans la recherche et en particulier ensuite qui a pris un grand essor dans les mouvements militants, mais c'est relativement récent, en tout cas dans l'espace français. Au-delà de cela, la question de l'atteinte environnementale et du fait que des populations qui sont comme ça considérées à la marge, ou en tout cas qu'on ne veut pas voir, soient reléguées à côté de déchetteries, d'usines, etc., c'est pas quelque chose du tout de récent. Quand on prend la construction même des villes, en règle générale, on a déjà des notions d'atteinte environnementale liées aux facteurs de richesse des populations. Par exemple, on sait que la ville de Paris, les 18e arrondissements dans le nord-est de Paris sont aussi liés au sens général des vents qui amenaient les fumées des usines parisiennes globalement dans ces zones-là, et c'est là qu'on mettait les populations les plus pauvres. Voilà. Donc ça, cette construction, ces constructions urbaines où on a relégué comme ça les populations à la fois les plus pauvres mais aussi celles qu'on considérait dans les marges, c'est quand même un phénomène assez ancien. En ce qui concerne les voyageurs et ou alors ce qu'on appelait des nomades à l'époque, la question des lieux de vie des voyageurs à proximité de déchetteries, c'est quelque chose de très ancien. On le retrouve dans des rapports des années 40, on le retrouve dans des rapports aussi des années 50. Donc c'est quand même quelque chose qui existe depuis des décennies, dont les autorités ont conscience, dont les voyageurs évidemment ont conscience encore plus, mais c'est pas quelque chose qu'on découvre en réalité. De la même façon, les aires d'accueil, personne ne les découvre. Les gens savent très bien qu'il existe des aires d'accueil, et que finalement, quand on interroge des personnes qui ne s'intéressent pas nécessairement au sujet et qu'on leur demande de réfléchir deux secondes où est-ce qu'elles voient les aires d'accueil en règle générale, elles vous disent tout le temps à la sortie des villes, dans des zones où personne d'autre ne vit, et puis surtout à proximité de déchetteries, de stations d'épuration, etc. Donc on est sur des phénomènes qui sont en réalité très anciens, mais qui pour autant n'ont jamais été réellement saisis, ni par les institutions, l'administration, et même, on peut dire aussi par certaines associations de défense de voyageurs, qui n'ont pas réellement toujours saisi ce sujet-là, et non plus par les militants écologistes, ou en tout cas les mouvements écologistes, qui, en France, font appel de plus en plus aux notions de justice environnementale, mais qui n'avaient pas forcément intégré la situation des voyageurs dans leur combat. Et aujourd'hui, on voit que finalement, en révélant en mettant la lumière sur ce phénomène-là, il y a de plus en plus de personnes qui se disent on est quand même dans un phénomène global, massif et qui illustre parfaitement toutes les questions de justice environnementale, d'atteinte environnementale, de discrimination environnementale, et même on pourrait même utiliser la notion de racisme environnemental.
Alors, je reprends quelques termes du livre. Tu dis la vie sur le voyage, c'est vivre en zone urbaine, mais sans urbanité. Alors, est-ce qu'on peut préciser un petit peu quel sens tu donnes à urbanité et ce qui fait que les gens du voyage en sont privés ?
L'urbanité, c'est faire partie intégrante de la ville, c'est-à-dire que les conditions d'urbanité sont des conditions d'accès à la ville, sont des conditions d'interaction avec la ville, sont des conditions en fait où l'individu a sa place dans la ville. Typiquement, quand je parle d'absence d'urbanité, c'est lorsque... évidemment, je vous donne un exemple très concret. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une personne, une habitante de l'aire d'accueil de Morlaix. Cette personne me dit on nous traite comme des envahisseurs, alors même que ça fait plusieurs décennies qu'ils vivent sur l'aire d'accueil. Donc ils sont sédentarisés sur l'aire d'accueil. Et souvent encore, on reprend les termes disant ce sont des personnes accueillies. Il ne s'agit plus en réalité de personnes accueillies, il s'agit de personnes habitantes de la ville. Pour autant, elles n'ont accès à aucune urbanité, c'est-à-dire que l'aire d'accueil est très loin du centre-ville, l'aire d'accueil est conçue comme une forme de camp, et surtout, l'aire d'accueil est un lieu de relégation qui ne jouit d'aucune interaction avec la ville. Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas de... on est quand même dans un lieu total de relégation et d'oubli. Et on en oublie même la qualité d'habitant des personnes qui y habitent. C'est-à-dire qu'on les considère comme des personnes toujours de passage, alors même qu'elles habitent dans la ville et qu'elles payent un loyer dans la ville aussi. Ça, c'est aussi une notion qui revient souvent sur la table, c'est-à-dire le fait de dire finalement, ce sont des gens qu'on accueille, donc on est bien généreux avec eux. On revient sur l'angle de la générosité. L'accueil est une générosité, un don qu'on fait aux gens du voyage. Mais en réalité, les gens du voyage, si on regarde bien même les choses très factuellement, les gens du voyage payent des loyers pour pouvoir vivre sur les aires d'accueil. Et certains y ont élu en quelque sorte domicile parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Et ça, c'est le fait qu'on dénie toujours la qualité d'habitant aux voyageurs, ça illustre parfaitement la question de l'absence d'urbanité. Mais au-delà, on parle de ce symbole-là, mais au-delà, effectivement, quand on enchaîne des lieux qui ne sont jamais intégrés aux villes, on est en rupture complète d'urbanité.
Pour approfondir et mieux comprendre les discriminations que subissent les gens du voyage, c'est bien aussi de s'attarder justement sur ce terme, gens du voyage, cette catégorie. Et alors, selon tes termes, c'est un exonyme légal. Qu'est-ce que ça veut dire ?
L'exonyme, il s'oppose à l'endonyme. L'endonyme, c'est le nom qu'un groupe se donne. Par exemple, moi, quand je parle de qui je dis je suis voyageur. Ça, c'est un endonyme. C'est un nom qu'on se donne, nous, entre voyageurs. Et ensuite, il y a l'exonyme, qui est un nom que l'autre donne, et qui est typiquement illustré dans le cas de gens du voyage, qui est un exonyme. C'est pas un nom qui... On se dit pas gens du voyage entre nous. Ce nom-là, non seulement il est donné par l'autre, mais en plus, il a été, et on lui a offert un cadre légal. C'est pour ça que je parle d'exonyme légal. Le gens du voyage, c'est à l'origine une catégorie administrative créée en 1969, qui vient remplacer le statut de nomade de 1912, qui vient aussi un petit peu effacer toute l'histoire amorale de la société à l'égard des nomades, c'est-à-dire on sort... D'une phase d'internement qui s'inclut dans un processus général de génocide à l'échelle européenne. Il y a eu des exactions terribles. Les nomades ont payé en France un tribut assez lourd en termes aussi de traitements inhumains, dégradants, et aussi ont été victimes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et pour autant, on a toujours ce statut de nomade qui les a conduits directement dans les camps. Donc en 69, il y a certaines choses qui ne sont plus possibles, et surtout, en fait, le statut de nomade a perdu de son efficacité en termes de contrôle des populations. C'est un statut avec lesquels les populations ont pris l'habitude de composer, et certaines arrivent à échapper à ce statut de nomade par différents stratagèmes légaux. Et donc, petit à petit, on va se dire, il faut changer ça, parce qu'il faut continuer à pouvoir appréhender les gens du voyage comme on sait le faire en France, c'est-à-dire à les appréhender à partir de conceptions ethniques sans le dire, puisque c'est ce qui revient en réalité en pratique, tout en effaçant un petit peu tout le background immoral de la Seconde Guerre mondiale. Donc on crée gens du voyage, on enlève les carnets anthropométriques, on les remplace par des carnets, des livrets de circulation. Alors évidemment, toutes les mentions qui peuvent relever de l'anthropométrie judiciaire, mais aussi de l'anthropologie raciale, etc., sont effacés. Mais au final, on a un document qui contrôle les déplacements avec un système de pointage régulier au commissariat. Donc, on est peu ou prou dans le même type de schéma. Et surtout, on arrive à distinguer le genre du voyage sur des critères légaux qui, finalement, cherchent à englober en pratique un maximum de personnes qu'on appréhende comme des diganes. Alors, à tort ou à raison, parce que tous les gens du voyage, au sens scientifique, ou en tout cas des sciences humaines, ne sont pas des diganes. Il y a plusieurs types de populations, mais en tout cas, c'est une appréhension à partir de stéréotypes et de clichés qui sont construits autour de la figure du digane. Donc, la catégorie administrative de gens du voyage, elle perdure au moins jusqu'en 2012-2017, avec, dans un premier temps, une sanction du Conseil constitutionnel qui vient annuler donc une partie des dispositions de la loi de 69 qui crée ce statut, justement, cette catégorie administrative. Et ensuite, en 2017, avec l'abandon complet de la catégorie, en tout cas, on la vide de sa substance, en abandonnant complètement les livrets et carnets de circulation. Mais on continue à l'utiliser en tant que dénomination administrative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, gens du voyage, c'est toujours utilisé par l'administration, toujours utilisé par le législateur. Et on a des traitements en pratique, qu'ils soient des traitements administratifs au sens large, scolaires, policiers, sur la place dans la ville, etc., qui en pratique sont des traitements discriminatoires.
Tu l'as dit tout à l'heure, l'accueil des gens du voyage est présenté comme une générosité. À l'inverse, tu tentes de démontrer que des lois, comme les lois Besson de 90 et 2000, bien qu'elles se présentent comme un équilibre entre les droits et les devoirs des voyageurs, procèdent plutôt de formes de violence institutionnelle, de relégation, d'assignation spatiale, et d'un encampement. Est-ce que ce type de loi révèle d'un anti-tsiganisme d'État, ou est-ce qu'on doit conclure plutôt corruption insidieuse de l'esprit des lois? Ou est-ce que c'est simplement l'application des lois qui pose problème? Comment tu situes les choses, toi, là-dessus?
Si on parle de l'esprit de la loi Besson, clairement, on parle d'antiziganisme d'État. Parce que l'antiziganisme d'État, ce n'est pas seulement de dire l'État a contraint, l'État a contrôlé, etc. C'est aussi de dire l'État conçoit. Et l'État conçoit les gens du voyage d'une certaine manière. Et c'est une manière qui est empreinte de clichés de stéréotypes très anciens et qui s'inscrit dans une histoire et dans un continuum de discrimination. Donc effectivement, l'État considère les gens du voyage comme des personnes à paternaliser, c'est-à-dire à paterner. Il y a un esprit extrêmement paternel sur les gens du voyage. C'est une personne à assimiler, à civiliser. Dans les années 50, la commission interministérielle qui avait été déployée par le ministère de l'Intérieur pour résoudre justement le problème des personnes d'origine nomade, si on reprend les termes des rapports de l'époque, chercher à permettre aux nomades de devenir un homme moderne. Donc cette conception-là, elle est inscrite vraiment au plus profond de l'État, et on le voit aujourd'hui, encore aujourd'hui, dans la structuration des tissus, des personnes en tout cas qui côtoient les voyageurs au quotidien, que ce soit des travailleurs spéciaux, spécialisés dans les gens du voyage, que ce soit des associatifs qui portent la parole des voyageurs alors qu'ils ne le sont pas, etc., etc. Et on le voit également au niveau des politiques publiques. Donc forcément, quand on a ensuite un législateur qui est empreint de cette tradition, on va dire, de pensée, de cette conception idéologique du genre du voyage, eh bien, il va rédiger une loi qui, pour lui, lui paraît complètement équilibrée, mais qui, en réalité, l'est totalement. Et surtout, on ne peut pas prétendre à l'équilibre des devoirs et des droits entre un citoyen et une collectivité publique. C'est quelque chose qui, de toute façon, est déséquilibré à l'origine. On n'est pas dans un rapport de force. Donc, dire que les voyageurs peuvent jouir d'espaces qu'on leur construit et que leur devoir est d'y rester, en réalité, l'équilibre penche nettement en défaveur des voyageurs qui, eux, sont les principaux concernés et eux doivent vivre à l'année dans ces lieux. Alors que l'État, lui, une fois qu'il construit ces lieux, ce sont des lieux publics comme les autres qu'il gère comme tout autre lieu public. Donc on n'est pas du tout sur un texte d'équilibre. On voit en plus qu'à partir de cette notion, de cette conception en tout cas de texte d'équilibre, on a souhaité apporter beaucoup de souplesse, en tout cas le législateur a souhaité apporter beaucoup de souplesse aux collectivités, donc à la fois dans la réalisation de ces fameux lieux d'accueil, mais aussi dans leur manière d'appréhender le lieu d'accueil à partir de la ville, c'est-à-dire sa place dans la ville. Et ce qui se produit en pratique, c'est que cette forte souplesse laisse place à des types de comportements au niveau de la mise en œuvre de la loi, donc au niveau local, qui sont des comportements discriminatoires, qui sont des comportements de relégation, qui sont des comportements de rejet. Et on a comme ça un très grand nombre de communes, de territoires, de collectivités, aujourd'hui d'intercommunalités surtout, puisque c'est à eux que revient la charge, entre guillemets, de l'accueil, qui mettent tout en œuvre soit pour accueillir à minima, soit pour éviter l'accueil. Il y a aussi beaucoup de processus d'évitement de l'accueil.
Le dernier point d'achoppement fréquent est celui du financement, qui rejoint, de manière plus ou moins directe, le ressort anti-tzigane qui appréhende les gens du voyage comme une population parasitaire et un fardeau social. En géographie, il existe une notion intéressante, celle de capacité de charge d'un milieu emprunté à la biologie, qui désigne un nombre maximum ou optimum d'animaux qu'un territoire donné peut tolérer. Et j'utilise cette notion en toute conscience. Elle traduit un sentiment fréquemment éprouvé et que j'entends autour de moi, celui d'être parfois moins bien traité que des animaux. Des histoires d'aires d'accueil construites sur des terrains refusés au SPA pour le bien-être des chiens. On en a entendu quelques-unes. Des panneaux interdits aux gens du voyage. On continue d'en trouver, plus souvent que ceux qui interdisent les chiens. Alors, j'utilise en toute conscience la notion de capacité de charge, car c'est cela l'accueil, quel nombre de gens du voyage un milieu peut-il supporter ? La loi prévoit que les villes de moins de 5000 habitants ne soient pas obligées de disposer de terrains d'accueil. Elles constituent 94% des communes françaises. Est-ce cela notre capacité de charge ? 5000 habitants ? Ou est-elle définie par les prescriptions en matière d'accueil ? Ici 60 emplacements, là 8 et plus loin 20. Et, entendons-nous bien, si la question des financements des aires d'accueil est posée avec autant d'insistance, celle qui signifie combien nous coûtent ces gens du voyage, c'est qu'un large pan de la société résonne en termes de capacité de charge tzigane d'un milieu.
Et on en arrive, pour donner des chiffres, au fait que si seules des communes de plus de 5000 habitants doivent construire des aires, et si les gens du voyage sont censés ne s'installer que sur ces aires, ils n'ont accès qu'à 6% du territoire.
Alors, pas en termes de surface, ils n'ont accès qu'à 6% des communes françaises.
Oui.
Donc, ça, en termes de surface, ça représente beaucoup moins que 6% du territoire. En
fait. Oui, c'est bien de le préciser. Et ces politiques publiques d'accueil ont pour conséquence de mettre en place ce que tu appelles une logique de stockage. Qu'est-ce qui permet d'employer un terme qui, a priori, conviendrait plutôt à des marchandises ?
Simplement, moi j'utilise ce terme, tout le monde n'utilise pas ce terme, moi j'utilise ce terme parce que les pratiques des personnes qui s'incluent dans le processus de gestion des lieux d'accueil, et donc de gestion aussi des personnes qui vivent sur ces lieux d'accueil, parce qu'on peut appeler ça de la gestion, se rapportent en fait à des processus de rationalisation qu'on retrouve dans des systèmes de gestion de stock. On est dans des lieux qui sont à l'écart, qui ne sont pas nécessairement conçus pour les êtres humains, parce que qui ne sont pas bien conçus pour les besoins, en tout cas, des êtres humains qui y vivent, qui sont localisés dans des endroits qui ne sont pas non plus hospitaliers pour les êtres humains. Et en réalité, on est dans une forme d'accueil qui est mal comprise. En tout cas, le terme est mal compris. L'accueil, ce n'est pas de l'hospitalité. Il faut bien distinguer les deux termes. Et en pratique, on le distingue très facilement. L'accueil peut être glacial. Et moi, je n'appelle pas vraiment cela de l'accueil. J'appelle ça, en fait, en pratique, ça se transforme souvent en habitat. C'est-à-dire que l'air d'accueil qui sert normalement à des personnes de passage se transforme en terrain de sédentarisation. C'est ce qu'on retrouve dans, aujourd'hui, je pense, une majorité des aires d'accueil français. C'est-à-dire que les personnes les plus précaires, les plus précarisées, qui ne peuvent plus, qui n'ont plus les moyens de voyager aujourd'hui, se retrouvent sédentarisés sur ces aires et deviennent donc des habitants de l'air. Ils ne sont plus des occupants, mais deviennent des habitants. Ils ne sont plus des usagers simples, ils sont des habitants. Et quand on est dans ce cas de situation, l'air n'est plus un lieu d'accueil, c'est un lieu d'habitat. Et à ce moment-là, on peut parler d'habitat indigne. Parce que l'espace n'est absolument pas programmé, dédié ou conceptualisé, en tout cas pour de l'habitat. L'autre chose, c'est que le lieu d'accueil est conçu comme une forme de lieu où on retrouve en fait dans la conception même du lieu l'appréhension stéréotypée du genre du voyage. C'est-à-dire que globalement, dans les anciennes versions des lieux d'accueil, on créait des camps. On créait des camps, donc des grandes surfaces de bitume, grillagées, avec des sanitaires collectifs, où tout est conçu en fait pour le véhicule. Ça, c'était les premières aires d'accueil. Les nouveaux lieux d'accueil ont été rationalisés avec des carrés individualisés, c'est-à-dire que chacun a son emplacement avec souvent, parfois en tout cas, un local qui est conçu aussi pour se prémunir du vol et des dégradations. Donc on conçoit vraiment, on prend en compte toujours cette question du vol, de la dégradation et des comportements des voyageurs. Donc on colle tout dans un bloc de béton. Et aussi est adossé à l'architecture globale de l'aire d'accueil un système de surveillance avec caméras de vidéosurveillance, ERF anti-intrusion, avec une maison pour le gardien de l'aire d'accueil, parce que les aires d'accueil, surtout les plus grosses, sont gardiennées. On dit qu'elles sont gérées par un gestionnaire, mais cela revient du gardiennage d'espace, hein, avec une personne qui est en charge de l'application d'un règlement intérieur sur l'aire d'accueil, donc qui est en charge des sanctions à l'égard des voyageurs. Et dans certains règlements intérieurs d'aires d'accueil, il y a un paragraphe dédié aux sanctions. Donc on est quand même dans un système extrêmement paternaliste, voire de semi-liberté. Hein. Parfois, ça se confronte presque à ça. Et en tout cas, c'est le sentiment que les gens en ont. Et on a donc dans ces petites maisons dédiées aux gestionnaires des portes blindées, des barreaux aux fenêtres. Enfin voilà. Donc on est vraiment dans une conception en fait de ce lieu d'accueil qui en réalité est une conception qu'on pourrait retrouver par exemple pour un CRA, pour un centre de rétention administrative. Et ça pose évidemment des questions sur la conception qu'ont les pouvoirs publics de l'accueil des gens du voyage, en tout cas de ce qui doit être de l'accueil. Alors évidemment, tous les lieux d'accueil ne sont pas comme ça. Il y en a qui sont un peu différents, moins équipés par exemple en matériel de vidéosurveillance, etc. Mais ça reste des lieux quand même conçus pour parquer et garder des gens à l'écart des villes.
L'objectif, c'est de produire des données, l'objectif de cette enquête. Donc quelles sont les conclusions de l'inventaire? Est-ce qu'on peut montrer ce qu'on peut dire, ce que ça a révélé?
L'inventaire, en fait, je ne suis pas certain qu'il révèle énormément de choses pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet ou qui côtoient un peu ces lieux. L'inventaire, il vient simplement appuyer des décennies de revendications et de discours de voyageurs et puis d'autres personnes aussi qui sont sensibles aux conditions de vie des voyageurs, qui prétendent en tout cas que l'aire d'accueil est systématiquement à côté de la déchetterie. Que l'inventaire révèle, c'est qu'il y a un réel caractère systémique dans ces localisations, dans le choix des localisations des aires d'accueil. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui se répètent et qui se répètent de manière quasi systématique. Les mécanismes qui mènent à la localisation d'une aire d'accueil à proximité d'une déchetterie, c'est d'abord et avant tout une question de rejet de la ville. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des élus qui se mettent autour d'une table et qui se disent où est-ce qu'on peut placer l'aire de telle sorte à ce qu'elle soit le plus loin des autres habitants pour ne pas qu'il y ait de contestation des personnes qui nous élisent et que ça engendre le moins de contestation possible à l'échelle du territoire. Forcément, quand on cherche à éloigner les aires et que dans le même temps, on cherche à baisser au maximum les coûts de construction et de réalisation, eh bien, on se retrouve avec des aires d'accueil qui sont à proximité de déchetteries ou de sites Céveso, de stations d'épuration, de tous ces lieux qu'on a eux-mêmes rejetés pour leur caractère nuisible et surtout qui permettent de raccorder à l'eau et à l'électricité plus facilement les aires d'accueil, donc qui permettent aussi de baisser les coûts. Voilà, c'est peut-être ça qu'a démontré l'inventaire, c'est le caractère vraiment quasi systématique de la chose. Et ensuite, ce qu'a démontré l'inventaire, c'est... Ce qui n'a pas démontré l'inventaire, mais en tout cas ce qui a permis l'inventaire, c'est une visualisation à l'échelle globale de la présence de ces lieux. Et on se rend compte, en tout cas on le voit très clairement, que sur certains territoires, il n'y a pas de lieu d'accueil. Il y a donc des exclusions territoriales absolument phénoménales.
Être préparé au conflit est inhérent au voyage. Il faut attendre l'arrivée des clistés après chaque installation, se préparer aux élus hostiles, aux épandages de lisiers, à déplacer les pierres qui bloquent les chemins, à ouvrir des places qui, pourtant prévues pour l'accueil, restent portes closes. La préparation au conflit, c'est partout, dans les administrations, à l'école, dans le voisinage. On fait face aux pétitions de riverains qui demandent un départ, à l'éducation nationale incapable de répondre aux besoins des enfants voyageurs ou aux difficultés d'accès aux droits. La bataille est quasi permanente. Il faut lutter pour l'accès à l'eau, lutter pour l'accès à l'électricité, lutter pour l'accès au stationnement, lutter pour l'accès à l'éducation, à la santé ou au travail. Il faut encore lutter pour obtenir une attestation de résidence sur les aires, indispensable pour les démarches administratives ou s'inscrire à l'école. Pour certaines familles précaires, qui n'ont plus les moyens de voyager, l'enchaînement des expulsions d'air, en raison des fermetures administratives ou d'incapacité de payer les droits de stationnement, l'eau ou l'électricité, et d'emplacements illégaux, constitue un processus de marginalisation inextricable. En fait, c'est assez simple. Si l'on ne résiste pas, il n'y a plus de voyage.
Alors, il y a des perspectives de lutte pour la défense des droits des voyageurs, notamment qui peuvent converger autour du racisme environnemental. Alors, est-ce que c'est, d'après toi, un des champs possibles? Comment ça pourrait se faire? Est-ce qu'il y a d'autres champs de lutte possibles également?
Converger autour de la notion de racisme environnemental, j'en suis pas encore certain. Moi, j'utilise la notion parce que, d'une part, dans sa construction, qu'elle soit scientifique ou militante, cette notion elle s'applique de manière assez claire à la situation des aires d'accueil en France, qui sont quand même des espaces choisis par la force publique pour une catégorie particulière de la population qui, dans son histoire, a été appréhendée par sa race et discriminée en raison à la fois de son mode de vie, mais surtout de son caractère ethnique, en fait. Donc la question du racisme environnemental, moi je l'utilise, la notion de racisme environnemental, je l'utilise aujourd'hui beaucoup plus facilement qu'il y a quelques mois, parce que c'est quand même une notion qui appartient à un espace, à une histoire particulière aux États-Unis et qui a été développée par des collectifs nord-américains. Donc c'est pas tout à fait la même histoire que ce qu'on peut vivre en France, mais en tout cas c'est une notion qui a été récupérée aujourd'hui par le Bureau européen de l'environnement, qui le réutilise et qui prend de l'ampleur et qui surtout a un autre bénéfice, c'est qu'elle permet d'interpeller beaucoup plus puissamment, à mon sens, que des notions d'inégalité environnementale, par exemple. Même si il faut continuer à les utiliser, mais le racisme environnemental, il y a vraiment une dimension aussi peut-être militante aussi, et qui permet des convergences. Et effectivement, dans les luttes, eh bien, je suis pas certain encore aujourd'hui que ça soit une notion assez mature pour, on va dire, que les voyageurs s'investissent dans cette lutte. Il faut déjà le temps que les personnes les découvrent, qu'on comprenne cette notion et qu'on comprenne tous les mécanismes qui vont derrière et tout ce qu'elle engendre. Mais en tout cas, la question environnementale et la question du lieu de vie, la question de l'exposition aux pollutions, ça, je suis convaincu que c'est un point de convergence très fort pour les voyageurs. Parce qu'en fait, au final, les structurations politiques des voyageurs au sens large, et je dirais même des collectifs romani au sens large en France, se sont très, depuis très longtemps, se structurent principalement autour de trois grands thèmes. C'est le thème identitaire, le thème historique et donc mémoriel de la Seconde Guerre mondiale, et puis un autre thème qui est celui, pour les voyageurs en tout cas, de l'accueil. Mais finalement, ces thèmes-là, en fait, non seulement ne font pas consensus pour beaucoup, mais en plus ont tendance parfois à diviser. Alors que la question environnementale, globalement, personne n'a envie de vivre dans un lieu pourri. donc on arrive vraiment à avoir des convergences de luttes très intéressantes avec en plus des collectifs citoyens ou supérieurs au monde du voyage qui s'agrègent à cela. Je vois par exemple... j'ai travaillé moi avec les habitants de l'aire d'accueil de Gex dans l'Ain. Aujourd'hui, l'aire d'accueil de Gex dans l'Ain, sa situation, qui est donc au pied de deux carrières et d'un site de brûlage de déchets toxiques, qui est un lieu absolument invivable où il y a peut-être un des plus gros scandales sanitaires et environnementaux de l'Ain qui s'y déroule. Cette situation-là, aujourd'hui, est prise en compte par des collectifs écolos, citoyens, dans la ville. Et ça permet de créer de nouvelles convergences et surtout d'inclure le combat pour la justice environnementale des voyageurs avec un combat pour la justice environnementale de tous. Donc oui, je pense que c'est un point d'achoppement qui a de l'avenir.
Un autre point, ça pourrait être le droit au voyage. Qu'est-ce qui pourrait être une politique d'accompagnement au voyage ?
Quand je dis accompagnement au voyage, c'est aussi en contre-pied de l'accompagnement à la sédentarisation qu'on trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis 70 ans, grosso modo, un peu plus, peut-être un peu moins, en France, c'est vraiment développé des politiques d'accompagnement à la sédentarisation. Donc on revient sur ce truc de penser que la sédentarisation est toujours bénéfique, que c'est comme ça qu'on fait société, qu'on modernise l'homme, etc. etc. Alors qu'en réalité, la vie itinérante, en tout cas le mode de vie de l'itinérance, qui n'est pas un mode de vie de l'errance, hein, c'est complètement différent. L'itinérance est rationalisée, il y a des impératifs économiques, sociaux, etc. qui sont derrière. C'est un mode de vie purement européen, c'est un mode de vie qui irrigue la société bien au-delà des simples gens du voyage. Si on prend le cas historique du 19e siècle, il y avait énormément de personnes itinérantes en France, simplement parce que les pratiques agricoles nécessitaient beaucoup de main-d'œuvre et que les gens se déplaçaient beaucoup. Et les voyageurs étaient beaucoup moins visibles, en tout cas, on mettait beaucoup moins les projecteurs sur eux qu'aujourd'hui, peut-être, en tout cas au début du 19e siècle, sûrement, qu'aujourd'hui, parce que finalement, c'était pas une itinérance exclusive. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un cadre un peu différent, c'est-à-dire que depuis plus d'un siècle, ce qu'on a focalisé, en tout cas sur quelle itinérance l'État s'est pas focalisé uniquement sur l'itinérance de manière générale. L'État s'est focalisé sur l'itinérance des Tziganes, de ceux qu'ils considèrent comme ziganes. Donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est cette itinérance-là qui a été criminalisée, c'est cette itinérance-là qui a été pointée du doigt, c'est cette itinérance-là finalement qui a été rejetée d'un mode de vie collectif. Aujourd'hui, ça donne en pratique différents systèmes d'accueil public du véhicule mobile, hein, de l'habitation mobile, pardon. On a différents systèmes. On a un système pour les camping-caris, un système de campings municipaux. On a des systèmes privés également pour les autres habitants d'habitat mobile. Et puis ensuite, on a un système pour les gens du voyage, exclusivement à eux, qui n'est pas utilisé par les autres citoyens, mais qui est utilisé que pour les gens du voyage. Et ça s'accompagne de logiques, de politiques publiques d'accompagnement à la sédentarisation, qu'on appelle accompagnement à la sédentarisation, mais qui en réalité ont été parfois des contraintes à la sédentarisation, parfois forcées, parfois simplement en restreignant le champ légal du voyage, on a contraint à la sédentarisation. Et ça, si aujourd'hui les politiques publiques trouvent acceptable de continuer à aller accompagner la sédentarisation, il faudrait aussi qu'il y ait une acceptation d'accompagner au voyage. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sédentarisées, qui ont vécu cette sédentarisation comme une violence, qui en plus se sont retrouvées sédentarisées dans des conditions déplorables, indignes d'habitat, hein, que ce soit aujourd'hui une sédentarisation qui ne dit pas son nom, celle qu'il y a sur les aires d'accueil, ou des sédentarisations en terrain familial qui peuvent être aussi des habitats indignes, ou alors des sédentarisations beaucoup plus brutales qui sont un habitat social, un logement social. Donc il y a des voyageurs à qui on dit « abandonnez votre caravane, mettez-vous en appartement ». Certains le vivent bien, certains le vivent très mal, mais parfois on n'a pas le choix que d'accepter ça. Dans certains cas vraiment difficiles, on n'a pas le choix que d'accepter ça, en particulier par exemple dans des familles monoparentales ou dans des familles où il y a des personnes, par exemple, en situation de difficulté, etc. Des fois, on n'a pas le choix que d'accepter ça, et ça peut être très mal vécu. Il y a même des gens qui se sont retrouvés engagés dans les processus de sédentarisation, à qui on a mis en place, par exemple, une forme de terrain familial, donc on a aménagé un espace spécialement pour leur sédentarisation, et qui se sont retrouvés à quitter cet espace parce qu'ils ne pouvaient plus supporter. Donc cet accompagnement en voyage, c'est aussi un contre-pied. C'est une mesure qui aujourd'hui paraît largement utopique parce que j'imagine pas que dans les prochaines années, les pouvoirs publics mettront en place ce type d'accompagnement, mais au moins le dire a un mérite, c'est que ça permet de réfléchir sur ce que c'est que la sédentarisation. Et la sédentarisation, c'est aussi, in fine, une forme de paternalisme et ça peut être aussi une violence.
Une dernière question de conclusion. Le chapitre 6, intitulé « Le dénaturé », commence par cette question. Qu'est-ce qui a merdé ? Comment, avec le recul, tu répondrais à cette question ?
Je ne sais toujours pas y répondre parce que qu'est-ce qui a merdé, c'est une question qui reste ouverte. Justement, elle doit rester ouverte pour pouvoir y apporter de la nuance et puis pouvoir la contredire aussi, voilà, pour susciter le débat sur en fait, les mutations qui ont lieu dans nos cultures, dans nos différentes communautés, comment elles ont évolué. Mais globalement, on peut dire qu'effectivement, il y a une violence publique et sociétale qui s'est exprimée ces deux derniers siècles d'une ampleur peut-être jamais vue, mais en tout cas d'une ampleur qui... Alors je dis jamais vue, mais c'est faux en fait. C'est une ampleur qui s'est déjà vue dans d'autres territoires, en particulier dans les anciennes colonies françaises qui sont aujourd'hui devenues des territoires et départements d'outre-mer, notamment par exemple en Guyane où il y a eu des politiques de sédentarisation et d'exclusion des territoires des populations autochtones qui ont été extrêmement similaires à celles des voyageurs français. De la même façon, en Algérie, on a mis très vite en œuvre le statut de l'indigénat au 19e et 20e siècle. Ce statut d'indigénat, il a inspiré fortement celui des nomades. Donc, on est quand même dans... Qu'est-ce qui a merdé quand on essaie de répondre à cette question-là? On retourne quand même à des pratiques légales, à une société qui n'a jamais réellement pris en compte le mode de vie itinérant dans son patrimoine, en fait. C'est une société qui n'a jamais compris que, à la fois les voyageurs, les collectifs romani au sens large, les pratiques culturelles de ces collectifs, leur façon de vivre, d'appréhender le monde, de faire société, font partie de son patrimoine. C'est un patrimoine qui est français et européen. Quand on parle du patrimoine voyageur, quand on parle du patrimoine romani au sens large, c'est un patrimoine qui est français et européen. Et je pense que la raison, enfin en tout cas ça c'est purement personnel, mais je pense qu'une des raisons ce qui a merdé, c'est le fait que ce soit les élites ou que ce soit les autres citoyens ou l'État ou les administrations n'ont jamais compris que ça faisait partie de leur patrimoine, n'ont jamais en tout cas cherché à le comprendre. Je pense qu'il y a un vrai travail de revendication là-dessus qui est fait depuis de nombreuses années d'ailleurs par beaucoup de voyageurs, d'associations, etc. qui tiennent ce discours-là. On le voit clairement quand on regarde la place qu'occupent les représentations voyageuses dans la société. C'est une place qui est laissée aux faits divers, qui est laissée aux articles sur les installations illégales. Ça va pas vraiment au-delà. Il n'y a pas de centre de documentation digne de ce nom. Il n'y a pas de représentation politique, très peu. Il y a très peu de représentation médiatique. Il y a très peu de voyageurs qu'on retrouve exposés fréquemment dans les médias, etc. Donc voilà, on est quand même dans une société qui, à mon avis, a besoin d'emprunter ce chemin-là en comprenant que ces richesses culturelles sont les siennes aussi.
C'était un mois d'août brûlant. L'asphalte collé aux souliers, dans ce non-lieu situé à l'arrière d'une usine, ou peut-être d'un entrepôt qui ne servait plus depuis longtemps. Sur le goudron noir, dansaient des flammes sans feu. Nous cramions. Le terrain, grêlé d'innombrables nids de poules, ressemblait à un champ de bataille. Les mauvaises herbes poussaient avec nous, depuis les interstices. Des déchets, papiers et plastiques parsemaient le parking, comme nous parsemions les espaces laissés vides. La grande tente faisait ici une halte, sa caravane trônait, seule, au centre du No Man's Land. Dans le pays, comme partout, s'organisait une chasse aux « nous », ceux qui ne doivent pas vivre en dehors de leurs espaces réservés. Alors, faute de mieux, le parking brûlant et abandonné servait de repli. La grande tente servit une grenadine fraîche et un café. Chez elle, il y avait toujours du café. Son hospitalité détonnait, dans ce coin oublié. Elle souriait, les yeux plissés et le front dégoulinant.
Merci à William Hacker, auteur de « Où sont les gens du voyage ?» Inventaire critique des aires d'accueil, paru aux éditions du Commun. Un entretien réalisé dans le cadre du Salon d'expression populaire et de critique sociale organisé par Colère du Présent. Merci à Roxane pour les lectures d'extraits du livre. Restez à l'écoute de Radio PFM sur le 99.9 pour la suite des programmes.